Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Meet Lamitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux.
Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Texas Lover, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Meet Lamit, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre. Et pour cette émission, je suis rejoint par Vincent. Salut Vincent.
Salut Meet, salut tout le monde.
Alors Vincent, il paraît que tu fais partie des gros durs qui ont fini Silk Song.
À 100% mon gars.
Si, 100% ici aussi, en seulement 73 heures, ce qui est...
Ouais, alors 120 heures en lâchant le deck parce que papa pipi, papa couche. Mais
ah oui,
120
oui,
heures.
Ouais. C'est sûr que moi j'avais le bouton home de la Switch, donc ça compte pas les heures.
Moi j'ai assez l'habitude de laisser juste tourner le Steam Deck. Je le pose, je me dis je le reprendrai plus tard. Enfin, ça y a un bouton off qui commence un petit peu à... donner des signes de faiblesse.
Aïe, terrible. Ouais, Silk Song, la petite suite indé d'un petit jeu indé qui était sorti en 2017 par une petite équipe indé australienne. Pas très connue, hein.
L'ex arlésienne, hein, celle que tout le monde attendait à chaque Nintendo Direct.
Qui a été quasiment shadow droppé.
C'était pas au milieu des annonces de la Switch 2, tout hasard
un truc comme ça, ils se sont dit « Ah, oh, ce serait bien qu'on l'annonce quand même !» Et c'était
il y a un jour, va bien avant. Falloir qu'on dise, c'est ça.
C'était la semaine avant « Oh, dans une semaine, il sort !» Donc voilà, Silk Song sorti cette année, en 2025, hein, le 4 septembre, si je dis pas de bêtises.
Me semble que c'était ça. Je vais te le dire dans un court instant. C'était le 4 septembre, pile poil. Félicitations, tu as une mémoire en acier trempé.
Et oui, c'est moi. Silk Song, c'est un jeu comme la presse JV aime dire qu'on n'en fait plus. Il n'y a pas de microtransactions, il n'y a pas de multijoueur, tu peux jouer hors ligne. Et puis donc un jeu encore plus grand, encore plus fou que Hollow Knight, hein, le premier jeu de Team Cherry. Où nous suivons cette fois-ci donc la petite araignée Hornette dans les méandres d'un royaume lointain qui s'appelle le Farloom. Et qui va devoir se libérer de... Enfin, elle se libère de ses capteurs, de ses ravisseurs dans la cinématique d'intro, et puis ensuite il faut qu'elle comprenne un petit peu ce qu'elle fout là et trouve un moyen de s'en aller.
Absolument ça.
Et donc c'est un jeu où on doit explorer des zones, on trouve des pouvoirs, les pouvoirs permettent d'explorer de nouvelles zones. De temps en temps, il y a des boss. Et puis les boss donnent aussi accès à des pouvoirs, et ainsi de suite. Donc dans le plus pur style Metroidvania, où j'avais milité il y a longtemps pour qu'on rebaptise ça Castleroid, mais ça n'a pas pris.
Bien essayé, mais non.
Bien essayé. Et non.
Il en faudra plus.
Ah, comme quoi, on n'est pas influenceur qui veut, n'est-ce pas?
Tu es un défluenceur.
T'imagines? Donc ce petit jeu sympa, petit jeu indé, voilà, on saute, on combat des petits insectes, voilà, c'est mignon, les décors sont jolis. Et bien sûr, après 7 ans d'attente, personne n'avait rien de particulier à dire à propos du jeu.
C'est-à-dire.
On était juste tous très contents d'y jouer, et il n'y a pas du tout eu de débat sur Internet à propos de telle ou telle qualité du jeu, ni de débats enflammés sur est-ce que le jeu est suffisamment accueillant ou pas pour les gens qui l'ont acheté.
Si, justement.
Ah, je vois pas de quoi tu parles.
Ah, moi je vois de quoi je parle. Autant te le dire.
Ah bon, non, ça va, non. Je veux dire, le jeu il est cool, non.
Alors, moi si tu me demandes, je te dis oui, évidemment. Oui, le jeu est cool. Y a pas de problème.
Non, mais il est tranquille, oui. Quoi. Petit plateformeur sympa, voilà.
Oui, la difficulté.
Petit plateformeur sympa avec une petite épée sympa, voilà.
Oui, la difficulté est peut-être un petit peu corsée. Mais j'ai pas. Tu vois, même moi qui suis pas un gros fan de difficulté, ce débat, je l'ai trouvé un petit peu. Un petit peu exagéré. Pas non nécessaire. C'est toujours intéressant de parler de la difficulté des jeux et de leur accessibilité. Et ça, c'est un débat qui doit être encouragé, à mon sens. Maintenant, est-ce que le jeu était vraiment odieusement difficile? Je sais pas, mec, je joue avec véritablement deux pieds gauches. Je suis pas un excellent joueur. Je l'ai fini à 100% parce qu'il n'y a pas de surpourcentage. Je l'ai fini à 100% plus deux des boss supplémentaires que je voulais faire. Il y a deux, trois trucs que j'ai pas été finir qui sont des plaies absolues. Les mini-jeux des puces en mode hardcore avec les scores supplémentaires.
Oui,
non,
mais ça c'est...
J'ai vu les scores, j'ai essayé 20 minutes, j'ai dit va te faire foutre. Mais oui, globalement...
Déjà, les scores de base, ils n'étaient pas tous faciles à battre. Alors, les scores supplémentaires...
C'est ça, là c'était trop, c'était juste trop. C'était genre, peut-être 10 ou 15 points de plus, mais on montait, enfin, il y a des trucs qui montent à plus de 90 points, ce qui est complètement absurde.
Oui, c'est quasiment le double du record précédent.
C'est ça.
Aussi, quoi.
Si tu cherches de l'information ou un peu d'aide, genre une petite idée de technique ou de trucs qui pourraient te donner un avantage, tout ce que tu trouves globalement, c'est pas très très loin du guide. C'est un moment, bon. Est-ce que la difficulté du jeu encourage ce genre de discours? Probablement. Mais bon.
Ouais, ben c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui.
Oh, le nez creux.
Incroyable, hein. Non, parce que je pense que les gens parmi les plus véhéments, dans un sens ou dans l'autre, hein, dans ce débat sur la difficulté de sélection, sont un peu passés à côté de ce que disait le jeu lui-même, de sa propre difficulté. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de... C'est un petit peu ce qu'on va essayer d'explorer aujourd'hui.
Ah, ça va être intéressant, parce que tu vois, je me figure pas vraiment ce que le jeu essaye de dire par sa propre difficulté. Je suis tout oui. Je vais être ton idiot utile.
Tu vois, je pense qu'une expérience assez commune pour les gens qui ont joué à Silksong, bon, je le dis maintenant, ça va spoiler, parce qu'il y a des trucs où il faut parler de vraiment la toute fin du jeu, donc si vous ne voulez pas vous faire divulgâcher Silksong, c'est le moment de chercher un autre podcast, hein. Donc, je pense qu'une expérience assez commune dans le début de Silksong, c'est de faire le début du jeu, on se promène, voilà, et puis on arrive au chemin du chasseur, hein, le fameux Hunter's March. Et le jeu, tout à coup, il devient pas sympa, quoi. Il y a un gros boss pas facile à battre qui garde l'entrée de la zone.
Oui, ah oui, déjà lui.
L'intérieur de la zone est plein à craquer de challenges de platforming où il faut rebondir sur des fruits microscopiques et puis il faut en enchaîner 4 ou 5 à certains endroits pour gagner de l'altitude. Et quand tu te dis « Ah, je vais enfin souffler » parce que tu te poses sur une plateforme, tu te fais embusquer par deux ennemis super balèzes et t'arrives pas à t'enfuir parce qu'ils ont des projectiles. Et puis le fameux même, hein, où tu arrives à un banc après avoir lutté âprement, tu es à tes derniers points de vie, tu vois le banc, tu t'assois dessus et le banc est piégé parce que le seul banc du chemin du chasseur, il est piégé et il faut désamorcer le piège avant de s'asseoir dessus.
Alors, note que le jeu te fait ça trois fois. Et trois fois dans des zones qu'on pourrait considérer dégueulasses en termes de difficulté. Il te le fait dans le Hunter's March, qui est vraiment un petit wake-up call, on va dire, dans le niveau de difficulté du jeu. Éventuellement, tu vois, genre, tu commences à t'habituer au contrôle, tu as peut-être trouvé un premier saut pour changer de moveset qui te met un peu plus à l'aise. Peut-être même pas encore, mais tu commences un petit peu normalement à rentrer dans le fonctionnement du jeu. Et là, on te sort les fourmis qui attaquent à 100 à l'heure avec des ranges assez peu possibles et des patterns d'attaque pas toujours faciles à lire, avec les projectiles, comme tu le disais. Et là, bam, le banc piégé. Bon, la solution pour le dépiéger est pas très loin, ça va encore.
Oui, c'est pas comme le banc qui ne fonctionne plus à Bilsac.
Non, c'est pas à Bilsac. C'est l'autre zone avec les...
Il y a un banc cassé à Bilsac.
C'est pire.
Pas piégé, cassé.
Non, celui de Bilsac, il est piégé. C'est celui que tu trouves à mi-parcours, tout en hauteur. Quand tu t'assois dessus, le sol se dérobe sous toi et tu plonges inévitablement dans les verres.
Ouais, mais c'est pas de celui-là que je parle.
Ah, il y en a encore un autre de cassé ?
Il y a un banc de cloche et le mécanisme est bloqué et il sort pas.
Et oui, c'est pas à Bilsac, c'est l'autre zone.
C'est au chemin du pêcheur, ça ?
C'est au chemin du pêcheur.
Ah, d'accord.
Le chemin du pêcheur qui est un peu ta préparation physique pour Bilsac, en fait.
Oui, c'est vrai.
C'est même Bilsac sans les ennemis à projectiles. Enfin, il y a encore quelques-uns. Mais...
Après, je vais te dire, rétrospectivement, si on met de côté les boss, j'ai passé un meilleur moment à Bilsac qu'au chemin du pêcheur.
J'ai personnellement bien aimé Bilsac. J'ai moins aimé le boss à la fin, mais avec la bonne strat, il est prenable. Et elle est super, super contre-intuitive, d'ailleurs.
Ouais, je vois de quelle strat tu parles. Mais donc, voilà.
Sachez-le, la meilleure strat, c'est de rester dans l'eau.
Ouais, c'est effectivement, ça a l'air pas mal.
Tout ce qui fait en dehors de l'eau et des plongeons ne peut pas te toucher quand t'es dedans. Par contre, faut faire gaffe à où il replonge et où il ressort.
Ouais, je vois. Ah, c'est intéressant. Mais non, mais c'est tu vois, on va avoir beaucoup de petites anecdotes comme ça à partager dans le jeu. Mais donc, voilà, le chemin du chasseur. Le premier crest que moi j'ai trouvé, le premier emblème que j'ai trouvé, c'était celui en récompense du boss du chemin du chasseur, donc la Savage Beast Lie, là, je sais plus comment elle s'appelle en français.
Ah, l'emblème sauvage, là, où tu mets des coups de griffe.
Ouais, l'emblème du chasseur, ouais. C'était mon premier emblème, ça. Je te cache pas que faire 15 fois un boss en pestant contre toutes les saloperies qui apparaissent à l'écran et je suis récompensé par ah tiens, on va rendre le jeu pire pour toi, c'était un peu spécial.
La première, c'était le faucheur, ça va.
Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est un bon emblème qui peut te faire tout le reste du jeu.
J'ai fait globalement Hunter, Reaper, Wanderer et j'ai fini le jeu en Wanderer.
Ouais, moi Wanderer, j'ai pas aimé parce que il y a pas assez de portée. Parce que tu as la même portée que le chevalier dans Hollow Knight. Sauf que Hornet, elle est beaucoup plus grande.
Oui. Ça se calme un peu par la suite quand tu peux rajouter le pin de longue griffe qui te booste bien ta portée. Et un autre truc aussi, c'est l'espèce de chaman là, chaman des mousses, qui demande de ramener trois trucs moussus au début du jeu. Tu peux en trouver d'autres, des petites boules moussues là. Si tu les lui ramènes toutes, il t'améliore son crest, son emblème à lui. Et une fois qu'il est amélioré, pour chaque dégât que tu prends, tu vas générer non plus un demi, mais deux barres de soie à chaque fois.
Oui, c'est vrai que ça, c'était assez cool.
Ah bah pour la génération de soie sur le Wanderer qui tape vite, d'un coup, tu deviens... Enfin, ça trivialise certains boss, vraiment.
Ouais, tout à fait. Mais voilà, le chemin du chasseur... Non, t'inquiète pas. On est exactement dans le sujet. On est exactement dans le sujet, d'accord. Tous les trucs que t'as dit là, c'est des choses qui allaient venir naturellement. Donc on est pile poil dedans. Mais donc voilà, ce chemin du chasseur, le truc qui m'a beaucoup surpris et qui m'a profondément marqué quand je suis arrivé au bout, c'est que ça mène un peu nulle part au début du jeu.
Ah oui, non, vraiment. Hein.
Ça sert à la fin du jeu, peut-être. Techniquement, on peut même finir le jeu sans y aller.
Ah oui, assez clairement. En tout cas, pour la première fin. Tu vois.
Non, la deuxième, la vraie fin aussi. On peut faire la vraie fin sans y aller.
Oh putain, vache. J'aurais pas pensé.
Donc, il y a cette zone-là. Ensuite, on s'habitue au contrôle. On a Sombreval, ça va. On arrive petit à petit à Clochel. Clochel, ça va.
Ça va.
Il y a un petit enchaînement de boss. Ils font un peu peur au début, mais c'est pareil, ils ont l'air prenables et on finit par y arriver.
Oui, c'est très souvent le cas d'ailleurs. Hein.
Ouais, c'est pas souvent que les boss, on se dit « Oh non, ça, je nope en dehors du boss. »
Non, il y a peut-être 2-3 fois où tu gueules un petit peu, où tu dis
« Putain, mais vas-y, mais c'est pas possible !»
Mais à part ça...
On finit par y arriver.
Puis il y a peut-être quelques boss qui gueulent Olivier un peu trop souvent.
Est-ce qu'il te nique la batterie?
Bah, je sais pas. Faudra demander du coup à Lace ce qu'elle en pense.
Non, mais c'est pareil, Lace, ça va. Non, mais par contre, je sais pas toi, mais un truc qui était quand même assez sympa quand j'ai été dans le chemin du chasseur, c'est que j'ai eu la chance, quand j'allais à l'arène de combat où il y a beaucoup de fourmis à battre d'un coup, d'avoir la cartographe Chakra qui était avec moi pendant le combat. Et c'était quand même confortable d'avoir une copine sur qui compter pendant que je me battais contre toutes ces fourmis.
Alors moi, j'ai appris par d'autres que Chakra pouvait venir t'aider. Je n'ai jamais eu Chakra qui est venu m'aider dans un combat. Jamais. À aucun moment. J'ai eu Zanzibar à la place.
Ouais, mais c'est pareil, Garmon, le petit chevalier tout vert avec sa fidèle monture Zaza, il vient t'aider dans certains endroits.
Sa bouche de combat.
Il vient faire la bagarre.
Lui, il est trop cool. Tellement.
Trop cool. Pas du tout...
Pas du tout Don Quichotte.
Non, et puis pas du tout les larmes aux yeux quand on y repense après avoir fini le jeu.
Non, pas du tout. J'y pense et je vais très bien. C'est juste que j'ai coupé des oignons tout à l'heure.
Ça doit être pas la encore pluie. Passé. Mais colonel, il ne pleut pas.
Terrible.
Non, mais voilà. Donc ouais, tu peux te faire aider par Garmon. Quand tu réactives l'automate dans la citadelle, il vient t'aider dans certaines zones
de la citadelle, principalement. Tu le retrouveras pas en dehors.
Et donc, il y a un truc qui se répète souvent dans Silksong, si on y prête un petit peu attention, c'est que Silksong, c'est un jeu qui parle de beaucoup de choses. Il y a certains des thèmes qui sont abordés par des gens plus intelligents que moi et qui savent mieux de quoi ils parlent que moi, donc je vais pas entrer dans ces thèmes-là. Vous trouverez des gens plus aptes à en parler sur internet. Je donnerai même quelques petites références, mais Silksong, c'est un jeu qui parle d'entraide et d'aide venue d'endroits inattendus,
entre autres choses. Mais
c'est-à-dire que
on peut très rapidement aussi dire que c'est un jeu qui parle aussi d'oppression religieuse et de système capitaliste très ravageur. On va le dire comme ça parce que le mot que je cherche me vient pas, comme très souvent malheureusement.
Alors c'est aussi un jeu qui parle de comment les systèmes écrasent les gens.
Voilà, merci. Écrase les gens.
Parfois littéralement.
Oui.
Mais c'est aussi un jeu qui parle d'aide inattendue. Que ce soit au détour de Chakra qui apparaît dans un combat pour t'aider alors que tu t'attendais pas à ce qu'elle soit là.
Garmond également, du coup, mais on l'a déjà
Garmond
dit.
Garmond également.
Et le Sentinelle. Ah, comme ça on fait la boucle.
La Sentinelle. au début de l'acte 3, tu n'as plus accès à ton système de voyage rapide et tu dois faire un boss pour le rétablir. Et le coup final contre ce boss, eh ben, c'est ton compagnon, la bête des cloches, qui le porte.
Qui t'amène une aide supplémentaire, et qui en t'amène plus.
Oui, et c'est très mignon et très pratique.
Ça, c'est incroyable. Quand la bête revient, en fait, tu apprends qu'elle a deux petits, ne trois petits, quatre.
Des bébés.
Elle a des petits bébés. Elle a des petits bébés qui vont te suivre, en fait, un petit peu partout. Si tu joues une mélodie avec ton aiguillon, la bonne mélodie, ces petits vont te ramener au dernier point de voyage que tu as utilisé, systématiquement.
Et ça, c'est beau. Ce qui fait que le voyage rapide est beaucoup plus confortable à partir de là. Et ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que... un autre truc qui était un peu étrange, j'avais trouvé dans le début de ma partie de Silksong, c'est que tu as quelques PNJ qui ont des lignes de dialogue, mais dont les lignes de dialogue se résument à « casse-toi pouilleuse, j'ai pas envie de te voir
ouais. ».
Il y en a au moins deux comme ça.
J'en vois un très clairement.
Il y a le...
L'ermite des cloches.
Il y a l'ermite des cloches et il y a le chirurgien de Clochel qui a été banni à Sombreval.
Ah lui c'est un peu différent. C'est si tu m'amènes pas un truc intéressant, je veux pas te parler.
C'est alors tu en t'entendant le dire, Vincent, je suis sûr que tu m'accorderas que c'est quand même pas très loin.
Il y en a un, c'est systématique en gros, c'est qu'il veut vraiment rien avoir à faire avec toi et globalement. Jusqu'à un point de l'histoire où quelqu'un d'autre va le mobiliser, il va même pas vraiment se bouger pour toi. Il va se bouger pour la personne qui lui a demandé de se mobiliser. L'autre, en revanche, se bougera pour et avec toi quand tu vas te présenter avec le spécimen qui, du coup, a été demandé, qui, de fait, devient toi.
Oui.
Dans le sens de la quête.
Oui, je suis d'accord. Il y a une nuance, je reconnais.
Il y a une nuance. Mais tu sais que je suis chiant avec les nuances.
on est quand même sur la même portion du spectre, quoi.
Alors si on garde juste la notion de casse-toi, globalement on est là, voilà, ok.
Et ces gens-là, ben voilà, comme tu le disais, dans les bonnes circonstances, quand tu as été maudit, en apportant toi une aide inattendue à un PNJ, tu te fais récompenser en te faisant attaquer par un parasite et Et tu peux avoir une fin cachée si tu retournes battre le dernier boss avec le parasite encore actif.
Bonne chance, hein, d'ailleurs.
Non, ça se fait. Franchement, ça se fait. Je l'ai fait, ça se fait.
Ah, je ne l'ai pas tenté. Tu vois, connaissant le boss et connaissant les conditions, j'ai dit ça, ça c'est non.
Bon, franchement, ça va, parce que le boss, il va assez lentement. Et puis, tu as encore... Il faut juste pas trop se faire toucher, quoi. Mais tu as encore ton grappin,
Un grappin qui est vraiment beaucoup plus utile qu'on peut l'imaginer en combat, d'ailleurs. Aparté, mais j'ai beaucoup aimé ça, d'ailleurs. Et utilisé.
Ouais, c'est pareil, ce grappin. Ouais, au début, tu te dis, mais qui sont les sombres connards qui se sont dit « Ah, on va mettre un grappin dans le jeu, mais ce sera que du mouvement horizontal. » Mais en fait, bon, le jeu, il est pensé autour, donc ça va.
Le jeu est pensé autour et c'est du mouvement horizontal pour aller au point d'accroche, en réalité. Puisque normalement, après, tu as une espèce de... dessous un peu courbé. Il y a un univers où ça peut être plus utile que juste une diagonale. Et c'est aussi un très bon extenseur de saut.
Oui, oui. Non, mais en fait le truc, il est cool.
Très
utile.
C'est très cool.
Il est très, très cool. Il est très, très cool. Et donc, ouais, le boss, il se fait. Et donc, voilà, on a aidé quelqu'un. Bon, on n'est pas super bien récompensé, mais après, on peut aller voir ce chirurgien qui retire le parasite et ça nous débloque un crest supplémentaire. Bon, un peu spécial à utiliser, mais qui a des arguments pour lui.
Le côté spécial, c'est surtout que tu peux plus te soigner si tu touches pas, en gros. Que tu touches pour te soigner, sinon ça, ouais. Tu dépenses la soie mais tu ne tiens pas les soins.
Oui, alors ça c'est vrai que ça c'est un truc, parfois le jeu il paraît très très austère, avec les trucs qui coûtent de la soie, tu te mets à dépenser de la soie alors que en fait t'as gaspillé le pouvoir. Par exemple, il y a un des pouvoirs qu'on a, c'est une contre-attaque. Sauf que la soie, tu la dépenses pas quand tu déclenches la contre-attaque, tu la dépenses quand tu te mets en position de garde. Donc si t'as mal timé ton truc, tu prends les dégâts et t'as perdu ta soie. Bon.
Et si tu la time bien, tu finis le vrai boss de fin avec. Et ça, c'est incroyable. En vrai.
C'est vrai qu'il y a un côté assez incroyable. Mais régulièrement, tu vas avoir de l'aide qui vient d'endroits où tu ne t'y attends pas. Enfin, c'est pareil, cet ermite des cloches qui te dit casse-toi, quand tu es dans l'acte 3 et qu'on te dit qu'il faut rassembler différents PNJ pour que ensemble ils puissent t'aider à résoudre la situation qui est bien partie en couille à la fin d'acte 2.
Ouais, et encore une fois d'ailleurs, qui va permettre de mobiliser tous ces PNJ, c'est un autre PNJ qui est pas particulièrement heureux de ta présence.
Tu pensais qui ?
Le petit PNJ qui est chef de son clave.
Ah oui, c'est vrai que il est pas content que tu aies appelé des pèlerins qui viennent se reposer alors que lui il voulait juste être tranquille dans son coin où il y avait pas trop de monstres. Hein.
C'est ça, il te le fait longtemps sentir. Hein. Il y a beaucoup, c'est vraiment vers la fin de l'acte 2 qu'il commence à avoir des dialogues un peu plus agréables envers toi. Et quand je dis un peu plus, c'est vraiment pas de grand chose. Hein. C'est toujours un PNJ qui est très froid envers toi.
Oui, mais après il s'en va et puis c'est Sherma qui prend sa place. Sherma, petit ange, pas parti trop tôt parce que Sherma ne part pas.
Écoutez-moi bien. le premier qui fait du mal à Sherma, le premier qui fait du mal à Sherma, je vais le trouver. Et ça va pas bien se passer. J'ai un set de skills très particulier.
Ça va mal se passer si vous faites du mal à Sherma, c'est sûr. Non, Sherma qui est un personnage qui est assez intéressant d'ailleurs aussi, qui permet d'aborder les thèmes de Silksong un petit peu différemment parce que c'est un personnage qui reste fidèle à lui-même, mais
qui reste fidèle à ses croyances en la citadelle jusqu'à un certain point d'ailleurs, vraiment qui peut pas être autre chose qu'autre chose qu'un breaking point pour le personnage.
Ouais, mais ça ne change rien à ses autres qualités.
Oui, oui. C'est juste que c'est
le mettre au service de la communauté.
C'est juste que c'est, si tu veux, en fait, l'idée c'est que, en gros, Sherma arrive à avancer et souvent avant Hornet dans des endroits où on s'attendrait pas à le retrouver. Ce qui est théorisé, je pense, à juste titre, comme étant le fait que la Citadelle reconnaît Sherma comme quelqu'un qui vient se mettre au service de la citadelle.
Ouais,
Contrairement à Hornet, qui du coup est rejeté par les juges, les ennemis mécaniques, les pièges,
parce qu'elle
vient en opposition à la citadelle.
Ouais, c'est sûr que voilà, Sherma c'est le pèlerin qui est parfait dans sa foi, dans sa piété et dans son dans sa vertu. Mais il y a un autre truc qui était assez intéressant que j'ai lu dans des commentaires sous des vidéos. Sherma, c'est aussi un personnage qui chante. Et mécaniquement dans le jeu, si tu utilises ton aiguilline pendant les combats et que tu fais de la musique, ça paralyse les ennemis. Et donc, il y a des gens qui théorisent qu'en fait, Sherma paralyse les ennemis en chantant et c'est comme ça qu'il arrive à avancer.
De toute façon, le chant, la musique, les percussions, tout ça a une forme d'importance au sein de ce qu'est la citadelle. Hein.
Oui, parce que alors pour les gens qui auraient joué et qui n'auraient pas compris, comme moi, la citadelle est une gigantesque chorale, parce que le but, c'est de chanter indéfiniment une berceuse qui va garder la reine, la mère supérieure soi, endormie, parce que c'est pire quand elle est réveillée.
Ouais, c'est déjà pas bien quand elle dort. Hein.
C'est déjà pas ouf quand elle dort, c'est pire quand elle est réveillée. Donc toute la citadelle est organisée autour du fait de la contraindre à dormir.
Voilà.
Et alors c'est pareil, la vidéo que j'avais vue le soulignait, et je me permets de le souligner aussi. Grandmother Silk, c'est la mère supérieure soie, c'est la chef des nonnes, c'est pas la mamie.
Oui, oui, oui. Ça, pour les anglophones les plus avertis, c'est une évidence, mais c'est piégeux. C'est très piégeux, je suis d'accord.
Ouais, mais du coup, quand tu joues en français, il n'y a pas de problème parce qu'il y a marqué mère supérieure.
Oui, voilà, mais si tu joues en anglais, c'est pas grandmother au sens ta grand-mère.
Ta grand-mère, wesh.
Wesh, ta grand-mère. Non, on est gênant un peu là, quand même, je trouve.
On est un peu gênant, mais donc. Bah, d'ailleurs.
Les boomers.
Ouais, les vieux là. Non, mais. Bah, tiens, en parlant de la mère supérieure soi, c'est pareil. Encore un moment dans le jeu où une aide inattendue s'offre à toi. C'est-à-dire que. On finit une première fois le jeu. Il se passe un moment que j'adore, qui est qu'on absorbe le pouvoir de la mère supérieure et. Pour signaler la transformation de Hornet en reine araignée, c'est l'interface du jeu qui change pour signaler sa nouvelle nature, comme quand on change d'emblème. Mmh. C'est un moment incroyable de narration via la spécificité du médium. Roland Barthes serait très fier de Tim Cherry. Parce qu'il n'y a pas un mot qui est prononcé, et s'il n'y avait pas l'interface, on s'en rendrait pas compte. Mais donc ça, c'est la bad ending, hein, quand Hornet devient la reine et qu'il y a encore plus de soi qui vient corrompre encore plus les habitants de Farloom. Mais ouais. une fois qu'on a été obligé par le jeu de faire toutes les quêtes secondaires et d'aider tous les habitants de Farloom, bon gré mal gré, certains personnages qui jusque-là étaient assez réticents à la présence d'Hornet vont accepter de l'aider pour faire un piège, pour enfermer pour toujours la mère supérieure soit dans les abysses et libérer Farloom de son influence sans que Hornet n'ait besoin de devenir la nouvelle reine. Et là, on plante le piège, on finit le combat. Je t'avoue que moi, après avoir eu la fin cachée, refaire le combat pour la battre, pour déclencher l'acte 3, ça a été une promenade de santé.
Mmh.
Parce que j'étais bien aiguisé des réflexes contre ces patterns.
Ah bah
là. Et là, donc, au lieu d'absorber sa soie, on doit jouer de la nidoline, là, de l'aiguille. Et qu'est-ce qui se passe, Vincent?
Et on a Lace normalement qui termine le boss, hein. Pour nous, non?
Non, on a la mère supérieure qui attrape Hornet, qui va l'emporter dans les ténèbres. Et Lace débarque, coupe le bras de sa propre mère pour libérer Hornet.
Ah oui, elle ne le termine pas exactement, mais elle vient.
Et entraînée à la place d'Hornet dans les ténèbres avec la mère supérieure soi.
Mais on peut même aller encore plus loin, mythe. La vraie fin.
Alors justement, j'y venais. Parce que... Il y a plusieurs enjeux à cet acte 3. Il y a déjà le fait que le royaume est encore plus dans la merde que pendant l'acte 2, ce qui est un bel exploit.
Pas mal. Ouais,
pas mal. Fallait y aller.
En gros, l'explication, c'est que en partant vers l'abysse, du coup, ce qu'on va apprendre être l'abysse, la mère supérieure soit et dans une moindre mesure, Lace ont déversé sur le royaume des espèces de substances noirâtres qui viennent directement de l'abysse. Une espèce de soie encore plus corrompue que la soie corrompue, si j'ai bien suivi ça.
Des filaments de vide.
Oui, voilà, des Void Tendrils.
D'ailleurs, votre fichier de sauvegarde est couvert de Void Tendrils après avoir commencé l'acte 3, et vous devez les couper un par un en appuyant sur A sur l'écran de sélection du fichier. Ça donne tout de suite la bonne ambiance.
Ça, j'ai bien aimé aussi. Je trouvais que c'était une bonne petite idée.
Et donc, très triste, hein, l'acte 3. Vraiment mauvaise ambiance. Mais la solidarité prévaut, puisque...
Comme Paul.
On va voyager dans le passé pour battre les souvenirs d'anciens dirigeants puissants de Farloom. qui sont tout à fait satisfaits de leur dernier combat contre Hornet et de lui leur céder sa force. Il y a un quatrième cœur qu'on peut avoir qui est celui du prince vert.
Et quelle histoire.
Et c'est pour ça qu'on n'est pas obligé d'aller sur le chemin du chasseur à l'acte 3.
C'est vrai. Mais alors, quelle histoire. Bordel, quelle histoire.
Le prince vert, encore un personnage qui est enfermé dans sa cage sur le chemin du pêcheur et qui ne demande rien à personne et que Hornet peut libérer en lui apportant une aide inattendue.
Oui, ou qu'on peut complètement d'ailleurs ignorer et passer au travers de ce que moi j'estime être probablement la meilleure histoire de tout le jeu.
Excellente histoire, c'est vrai. Et donc, bon, on fait nos petits tcha-tcha-tcha, on revit le passé de Hornet, on voit bébé Hornet a soigné ma dépression, dites-nous sur le Discord si bébé Hornet a soigné votre dépression.
N'hésitez pas, vraiment.
Et on arrive donc au combat final contre la version corrompue de Lace. Donc Lace, ce n'est pas un insecte, c'est un amas de soie à qui a été insufflé la vie un peu contre sa propre volonté. Ce qui fait que c'est un personnage qui a une attitude très particulière envers Hornet, que je qualifierais de Toxic Yuri Tsundere.
Terrible, mais juste. Jerkass has a point.
Et Hornet, non contente de sauver Farloum, elle va aussi sauver. Elle descend aussi pour sauver Lace. Et donc, le combat contre Lace, c'est frustrant sur le coup, mais en vrai, c'est un dernier boss comme on les aime. C'est un dernier boss qui va vraiment vous faire vous repencher sur tous les éléments de gameplay sur lesquels vous avez affûté vos réflexes pendant tout le jeu. On a du platforming de précision pour réussir à la toucher parce qu'elle est toute petite. On a du timing pour éviter les attaques. On a des projectiles pour le placement.
On a des phases de disparition où il faut gérer tes placements et tes déplacements pour éviter quelque chose qui prend à peu près tout l'écran.
Aussi. Alors, tu sais que si t'es, tu sais
et
que
on
si
a Olivier
accroché, tu sais que si t'es accroché au sommet du mur, la vague de néant ne te touche pas.
Donc elle ne te touche pas, mais celle qui arrive derrière, par contre...
Non,
oui.
Non plus. Quand t'es tout en haut du mur... Ben non. Quand t'es tout en haut du mur... Si t'as l'outil jaune pour rester accroché sans appuyer sur les boutons, t'es tout en haut du mur, t'es tranquille.
Toujours.
Hein.
Toujours.
Ah, t'es en haut du mur, t'es tranquille.
Putain. Ok, super. Super. Super.
Super.
Merci. J'aurais aimé ne pas le savoir, en fait. Voilà. Moi qui m'étais dit, ouais, super, j'ai fait jouer mon skill et tout, je me suis mis au fond de la pièce, puis j'ai fait mon déplacement, puis j'attendais, puis machin. Ben non, en fait, ça va rien, c'est génial. Merde. Olivier.
Je croyais qu'on était en Amérique.
Pitié, non.
Ah non, clairement pas. Je croyais qu'on était en Australie.
Alors non, pour d'autres raisons aussi.
Et alors, est-ce que les jeux Hollow Knight sont des jeux avec plein d'insectes, dont certains gigantesques, parce que c'était fait par des Australiens
Peut-être.
Qui sait.
Peut-être.
Le mec, il a regardé dans son jardin, il a vu une araignée d'un mètre de diamètre, et il s'est dit, ah ben voilà.
Voilà.
Non, mais à la fin donc du combat final, on arrive à battre Lace. Hornet essaye de sortir Lace de l'abyss. Elle n'a pas assez de soie pour le faire.
Oui, ce que j'ai trouvé assez exceptionnel.
Et
The Lab, pour moi, c'était foutu.
Foutu.
Et
la mère supérieure soie, dans un geste de... Ouais, je pense qu'on peut dire un geste d'amour maternel, parce que Lace, c'est sa fille.
Même s'il y a déjà beaucoup à dire sur le sujet aussi.
Bon, il y a beaucoup à dire sur le sujet, mais...
Penchez-vous sur le wiki ou... Voilà. Quelque chose.
Et donne sa soie à Hornet pour que les deux puissent s'enfuir.
Oui. Mais...
Et alors, donc, ça veut dire que Hornet vient aider Lace. La mère supérieure soi aide Hornet. Et sur le chemin en haut, la protection que Hornet a réactivée en plongeant dans ses propres souvenirs n'est pas assez forte et ne dure pas assez longtemps. Et Hornet est sur le point de se faire dévorer par l'abîme, par les monstres des abysses, quand, au dernier moment, qui est-ce qui vient la sauver ?
Le Knight !
Le personnage principal de Hollow Knight, qui s'était sacrifié en ne faisant qu'un avec l'abîme pour pouvoir contrer Radiance, qui était la divinité qui avait été à l'origine de la corruption dans Hollow Nest, dans le premier Hollow Knight, avec le message qu'il faudra tout un épisode pour le creuser, mais le message selon lequel finalement la conscience et la civilisation sont des malédictions qui détruisent les esprits de ceux qui en sont atteints.
Oui.
Message intéressant. Mais on va pas déballer ça aujourd'hui. Et donc, il n'a fait qu'un avec le vide, mais apparemment pas assez pour ne pas se souvenir de Hornet, puisqu'il décide de l'aider à ramener Lace à bon port. Et après, c'est cool, on a sauvé Farloum, puisque la mère supérieure est toujours enfermée dans les abysses, mais toute seule dans le piège. Mon interprétation, c'est que le piège, il était conçu pour contenir une seule entité, et que quand il en contient deux, c'est la merde.
Mmh.
Et puis, bah voilà, on s'est bien amusé. Le jeu absolument sublime sur le plan artistique.
Ah, ça.
On lui enlèvera pas ça.
Ça suit la tendance du premier, il n'y a aucun problème. Ça va vraiment là où ça doit aller.
Ensuite, bon, bah voilà, il y a quelques moments où tu te fais troller par le jeu. Mais, et c'est là que c'est intéressant. La mécanique quand tu meurs, c'est la même que dans Hollow Knight. C'est-à-dire qu'on a un résidu de ta précédente incarnation qui reste à l'endroit où tu te fais tuer.
Oui.
Et où tu récupères, et quand tu l'atteins et que tu la casses, tu récupères ta monnaie, tes perles, et tu récupères ta soie. Tu récupères assez de soie pour te soigner une fois.
C'est ça. Au moins une charge entière de soie.
Et c'est là que ça devient intéressant, parce que cette mécanique, il y a des gens qui se sont demandé, mais à quoi bon ? On peut farmer des perles et tout acheter en étant complètement brainless pendant quelques minutes. Ça prend ni beaucoup de temps ni beaucoup d'efforts d'avoir toutes les perles. Pourquoi s'emmerder à faire ce cocon pour récupérer ces perles ? Et en fait, c'est en regardant des speedruns que les choses se sont éclairées pour moi. Parce qu'en speedrun, une stratégie qui est fréquente à certains dans un platforming, c'est de mourir exprès pour faire un cocon et ensuite faire un pogo dessus pour gagner de la hauteur et franchir un obstacle qui n'est pas censé l'être. Un autre truc, c'est que si vous arrivez de nature peinture au boss et que vous n'êtes pas encore mort, vous n'avez plus de ressources, vous ne pouvez pas vous soigner, il va falloir se battre contre le boss et espérer le taper assez de fois pour pouvoir se soigner. Mais une fois que vous êtes mort contre le boss, vous arrivez contre le boss, mais il y a le cocon, vous n'êtes pas obligé de le casser tout de suite. Vous pouvez le casser quand vous avez besoin de vous soigner pour récupérer automatiquement toute la soie.
Plus facile à dire qu'à faire, mais théoriquement possible.
Et le jeu, il est bourré comme ça de petits trucs où des choses qui ont l'air hostiles, en fait, sont là pour t'aider. Il faut juste changer la manière dont tu y penses.
Ouais, c'est, bah, tu vois, un petit truc. On parlait des équilibrages du jeu au départ, du fait que l'équilibrage a fait pas mal réagir à la sortie du jeu. Un des trucs qui a été beaucoup décrié, c'est le fait que le moindre ennemi est capable de te foutre de cœur de dégâts au lieu d'un seul. dans Hollow Knight. Et exception de quelques boss qui pouvaient en mettre deux à l'occasion. Oui, effectivement. Mais le soin est beaucoup plus rapide. Et surtout, ne demande pas de consommer tout ta ressource. Et de mémoire. Non.
Oui,
non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça, excuse-moi. C'est que le soin dans Hollow Knight ne soignait de mémoire.
C'était un masque à la fois et ça prenait l'éternité.
Un masque. Voilà. C'était un masque, c'était très long et ça prenait pas mal de ressources. Alors que là, c'est deux masques, je crois.
C'est trois masques.
Non, c'est trois. C'est trois et quatre si tu mets un, si tu mets un additif, du coup, qui, qui te soigne en deux temps.
Mathématiquement, ça revient au même. Si tu touches neuf fois un ennemi, tu peux soigner trois masques. C'est vrai dans les deux jeux, ça.
Mathématiquement, c'est vrai, mais mécaniquement, c'est beaucoup plus souple dans Silksong que ça ne l'est dans Hollow Knight.
Tout à fait. Dans
c'est
Silksong,
beaucoup plus facile de se soigner de quatre cœurs d'un coup que même de réussir à récupérer un cœur pendant un combat de boss dans Hollow Knight. Ça...
Ouais, de très très loin.
Je te le garantis sur facture.
Et c'est parce que tu as raison, le soin est plus rapide. Il est plus rapide à récupérer et plus rapide à utiliser.
Oui, voilà. Et puis alors sur les bons builds, autant te dire, parce que je te disais un peu plus tôt, hein, Wanderer plus le gain de soi sur dégâts et la vitesse d'attaque, hein, tu chies de la soie littéralement tout le temps. Quoi. C'est,
oui,
ça n'a aucun
oui,
sens.
Et, du coup, c'est pas trop un problème. Sauf contre certains boss qui ne sont pas des êtres vivants et qui du coup ne génèrent pas de soie quand tu les tapes.
Oh putain, ouais, la flamme du cul.
Ni oubli ni pardon.
Non, ni oublié. Ça fait partie des trucs que j'aurais beaucoup de mal à pardonner au jeu, par contre.
Ouais,
c'est un boss, c'est pas infaisable, c'est optionnel, mais. Ah, quelle idée de con!
Ouais, non, il n'y a pas que des bonnes idées dans le jeu, mais en fait, il y a des trucs où. Je pense que vraiment, et c'est ma take pour l'épisode, c'est. Le jeu, il faut se défaire. C'est pas une question de get good, c'est une question de se déconditionner des préjugés qu'on a à cause de son expérience de jeu par ailleurs, et en se déconditionnant et en acceptant ce que le jeu nous donne, on va pouvoir surmonter les difficultés qu'on a. Parce que il y a beaucoup de gens, je pense, moi y compris, hein, qui se sont retrouvés à galérer de ouf en traversant les niveaux, parce que il y a trop d'ennemis, ils sont chiants à combattre, ça prend toutes les ressources d'arriver à les battre, et puis après on n'arrive plus à faire le platforming. Mais d'une part, à part dans les arènes, on n'est jamais obligé de tuer les ennemis, et d'autre part, les outils rouges, ils sont pas là pour rien. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à me faire l'idée que j'allais utiliser les boutons R dans le jeu, mais en vrai, ça marche de ouf. Et c'est fait pour, c'est là pour ça.
Et puis il y en a vraiment qui sont très 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 utiles, pas juste un tout petit peu, qui sont vraiment cassés.
Il y en a qui vont vraiment changer la vie.
Il y en a qui ont dû être nerf depuis.
Oui, bon, ça c'est pareil, je pense que c'était pas la peine de les nerf parce que c'est pas un jeu compétitif en multi, mais
il y avait un petit bug en fait dans la manière de fonctionner des cockflies à l'origine. Telles qu'on les a utilisées, toi et moi, probablement, elles se soignaient à chaque sortie de zone. À 100%. Alors qu'elles n'étaient pas du tout pensées pour.
Ah oui, mais ça, ah oui, ok, bon, ça c'est pas un nerf. Ah, mais il y a des trucs qui sont.
Fonctionnellement, c'en est un.
Oui, non, mais pour moi, c'est une correction de bug. Par contre, il y a des trucs qui ont été réglés pour faire moins de dégâts. Et ça, c'est un peu con.
Ouais, ça, j'avoue que. Bon, les nerfs et buffs dans le cadre d'un jeu solo. Les buffs, éventuellement, les nerfs, je les comprends un peu moins, mais. Quand t'as une communauté Git Good derrière, éventuellement, peut-être que tu te sens un peu obligé.
Ouais.
Pas guère que ça.
Ouais, peut-être. Et pour revenir à la. Pour revenir au chemin du chasseur.
Oui.
Si on compare les cibles de Pogo pour faire le platforming dans le chemin du chasseur avec les marches 0D ou la citadelle, elles sont beaucoup plus petites. Et elles sont beaucoup plus petites parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'y aller avant beaucoup plus tard dans le jeu. Et le jeu essaie de te le dire avec son propre langage, de pas y aller. Il y a un boss juste devant. C'est pas du tout pareil que les autres zones de début du jeu. Et il y a rien, à part le conditionnement du joueur, qui t'empêche de repartir et revenir plus tard. Il n'y a rien qui t'en empêche. C'est un jeu où tu peux aller où tu veux. Tu n'es contraint. Enfin, le scénario te dit pas d'aller là. Tu n'es pas contraint par les systèmes du jeu d'aller là. Tu peux aller largement ailleurs. Tu peux faire tout le jeu sans y aller. Et je pense qu'il y a pas mal de gens, pas tous, hein, parce que il y a des gens qui se sont retrouvés à galérer jusqu'au boss de cette zone, à se taper la tête contre les murs. Contre le boss de cette zone, un peu comme me fait le boss de la zone lui-même, et qui se sont dit, ah mais il n'est pas pour moi ce jeu, c'est le début là et j'y arrive plus. Et le truc c'est que c'est pas vrai, le jeu, c'est juste que il a sa manière de communiquer ses informations et il faut y prêter attention. Il faut y prêter attention, il faut accueillir le jeu tel qu'il est pour pouvoir persévérer sans tomber dans une mentalité de git good, parce que tout le monde n'a pas le temps, tout le monde n'a pas la possibilité physique de le faire. C'est vrai que le jeu il va vite, c'est vrai que certaines manipulations sur la manette sont pas confortables, tout ça c'est vrai aussi. Je vais pas minimiser le truc, mais on peut se faire toute une partie jusqu'à la fin sans se retrouver dans des situations où on est obligé de faire ces manipulations pas confortables sur la manette ou de se retrouver alors qu'on n'est pas prêt face à des ennemis qui vont beaucoup trop vite. Et du coup pour conclure, je vais vous renvoyer vers une vidéo YouTube qui est sortie il y a vraiment pas très longtemps au moment de l'enregistrement. C'est une vidéo qui s'appelle Why Silksong Hurts sur la chaîne YouTube Wavelength, et c'est une vidéo qui parle du rapport que le jeu entretient avec la foi. Qui parle du fait que c'est un jeu qui va plus que vous encourager à vous améliorer, qui va vous encourager à avoir foi en vous-même. C'était plutôt bien écrit, c'était vraiment intéressant. Le lien personnel que le vidéaste a avec les jeux de Tim Cherry est très touchant en plus. Donc, je vous encourage à la regarder. Et si le jeu vous est tombé des mains parce que vous aviez trouvé qu'il était injustement difficile, redonnez-lui une chance. Et en dernier recours, et je dis en dernier recours, mais en vrai, même pas en dernier recours, hein, juste si vous le sentez, faites-le. La version PC, vous pouvez la modder dans tous les sens et tailler. Tailler l'expérience à vos attentes à vous pour pouvoir arriver au bout. Je pense que c'est intéressant d'arriver au bout de ce jeu et que c'est un jeu qui nous apprend à accepter de l'aide qui vient d'endroits inattendus, y compris dans les mécaniques et la communication interne du jeu.
Et
je ne sais pas si je t'ai convaincu, mais
moi, non, mais il y a des arguments qui vont dans le bon sens, on va dire. Ça me non, parce que je dis non, mais quel idiot. Oui, en gros, oui, il y a des arguments qui vont dans le bon sens. C'est un axe de réflexion intéressant.
Non, ouais, ta tech, c'est de la merde. Non, t'as essayé.
Non. Je ne dis pas ça. Je ne le pense pas non plus.
Dites-nous dans les commentaires si ma tech c'est de la merde, qu'elle est éclatée.
Évidemment, évidemment. Ou sur le Discord.
Ou sur changer. Sur le Discord. Bon, en tout cas, mon Vincent, merci de m'avoir accompagné pour ce bel épisode.
Mais avec plaisir.
Je vous rappelle que Hot Text et Slowburn est un podcast Studio Carton C. N'hésitez pas à vous rendre sur studiocartonc.fr pour voir les autres émissions du réseau. Retrouvez-nous sur le Discord. Hein. Vous pouvez m'envoyer un mail à hottext.slowburn@gmail.com si vous avez quelque chose à me dire. Merci à Paul pour le montage. Merci à Simon pour le générique de l'émission. Retrouvez la chaîne de Simon dans la description de l'épisode. Merci à toi, Vincent, pour la voix off au début de chaque épisode.
Toujours un plaisir.
Toujours un plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés, évidemment, et puis on se retrouve le mois prochain, en 2026, et d'ici là, je suis toujours mécanique, et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde.
Ciao.
Get him out!